Voilà, alors bonjour à tous, on se retrouve pour notre quatrième conférence de carême sur la doctrine sociale de l'Église. Elle sera intitulée aujourd'hui « Être chrétien au travail, est-ce vraiment raisonnable ?» C'est vrai que c'est une question qu'on peut tous se poser assez régulièrement. Et je vous propose juste pour commencer, et peut-être un petit peu en rappel de ce qu'on a pu voir les dernières fois. Alors, ça marche pas. Voilà, alors bon, visiblement, il y a des gens. et donc, je vous propose juste pour commencer un peu à titre de rappel sur des choses qu'on a pu voir les dernières fois, de faire un petit point sur le coronavirus. Et puis finalement, qu'est-ce que cette crise là dans laquelle on est, comment la doctrine sociale de l'Église peut nous aider à éclairer certaines des situations et puis certaines des choses qu'on voit. Voilà. Je vais y aller tout simplement avec les cinq principes. C'est vrai qu'une crise, c'est quelque chose qui nous change complètement notre quotidien, nos habitudes, et ça permet un peu comme finalement évoqué dans l'évangile de ce matin, de l'aveugle né, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est aveugle. Et donc c'est quelque chose qui nous permet de re-questionner finalement ce dont on a l'habitude. Et la première chose que du coup on peut réinterroger, c'est notre rapport à la dignité de la personne humaine. Et un tout petit exemple, c'est la dignité de la personne humaine en prison. On sait qu'en France, on a 70 000 personnes qui sont incarcérées dans 50 000 places de prison. Ça veut dire un sureffectif ou de la surpopulation carcérale, on en entend parler de temps en temps. Et là, du fait de l'épidémie de coronavirus, la question se pose d'arrêter les entrées en prison, de faire sortir des prisonniers qui sont les moins dangereux, etc. Et finalement, on peut se reposer la question de est-ce qu'on considère qu'il est normal d'avoir 20 000 personnes en plus en prison que ce qu'on a de place. Voilà, donc ça peut être une première chose qu'on se pose comme question. Et alors, pour quelque chose qui nous concerne tous, peut-être un peu plus, ben on entend tous parler du risque qu'il va y avoir d'avoir des tris à l'entrée des hôpitaux. Si une grosse vague de malades arrive d'un coup, de la nécessité qu'on pourrait avoir, que pourrait avoir le corps médical, de devoir trier les patients à l'entrée pour savoir ceux qu'ils acceptent ou ceux qu'ils n'acceptent pas, ceux qui mettent dans des lits de réanimation, etc. ou pas. Et ça, vraiment, ça nous dégoûte. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Et en fait, ce dégoût, c'est une très bonne chose. Finalement, c'est qu'on se rappelle collectivement que toute vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Donc ce dégoût de dire choisir une vie par rapport à une autre parce que la personne est plus malade, elle est plus âgée, etc. Finalement, on ne se retrouve pas du tout dedans et en société, alors qu'on sait que la protection de la vie n'est pas toujours facile à faire comprendre ou à complètement percevoir. Mais finalement, sur des sujets comme ça, on se retrouve et c'est l'occasion de voir que finalement on y tient à la vie, et à la personne complètement digne. Du coup, on se mobilise tous en restant à la maison, en se lavant les mains, en envoyant un hôpital de campagne dans l'Est pour que le corps médical n'ait pas à faire ses choix. Alors ça, c'était pour la dignité. Le bien commun, qui est le deuxième principe de la doctrine sociale de l'Église, et aussi quelque chose où on se finalement on se pose plein de questions actuellement indirectement. Le bien commun, c'est de réussir à ce que à la fois chaque personne et la collectivité puissent atteindre leur pleine perfection de manière plus facile, plus aisée. Et on a tous été pareil, un peu secoués ou ébranlés d'entendre parler de SDF qui se sont reçus des amendes pour cause de défaut de confinement. Parce qu'ils ne s'étaient pas confinés, ils ont eu des amendes de 135 euros. Et finalement, ben là, on est également dans le cas où on se rend compte que délaisser l'individu pour le seul bien du groupe, ben, y a quelque chose de pas très juste dedans. Voilà. Donc là, on est vraiment finalement l'application du bien commun. Être choqué de faits divers comme ça, c'est en fait professer qu'on croit au bien commun. Alors d'autres choses hein, sur le bien commun, finalement de manière très pareil, très médiatique, on voit vraiment les choses qui sont nécessaires à la survie d'une société, la santé, l'électricité, l'eau, la nourriture, etc. Et ça, on conçoit bien que ça contribue au bien commun de la société. Mais en fait, on voit aussi que tout ce qui n'est pas de l'ordre de la survie et qui du coup aujourd'hui est un peu au ralenti, voire annulé. Alors, pareil, vous ne m'entendez pas bien.
Tu me donnes le portable aussi.
Et tout ce qui fait pas explicitement partie de la survie et qui aujourd'hui est du coup un peu en sommeil, les bars, les restaurants, les fleuristes, les vendeurs d'automobiles, etc., les chemins de footing dans la nature, finalement tout ça, on sent que ça nous manque et que donc ça contribue au bien commun de manière habituelle. Finalement, le bien commun, il y a la survie et puis il y a aussi tout le reste. Et on voit que quand ça nous manque, il nous manque une partie de notre fonctionnement de vie en société. Et que donc ça aussi, les bars, les fleuristes, etc., ça fait partie du bien commun. Et d'où des choses qu'on entend un peu dans certains médias ou dans certains forums, de gens qui disent « Ah, mais au fait... Et moi. On parle beaucoup des soignants, mais est-ce qu'on parle des logisticiens? Est-ce qu'on parle d'eux, etc. C'est vraiment de se dire, et là, il faut vraiment se rattacher à ça. Si vous avez l'impression qu'on ne parle pas assez de votre métier, c'est quelque chose auquel il faut vraiment se rattacher. C'est qu'en fait, vous êtes attaché au bien commun et vous êtes attaché à l'utilité sociale du travail que vous faites. Donc il faut vraiment rester attaché à ça et puis se rendre compte que dans le bien commun, il y a le nécessaire survie et puis il y a aussi tout le reste qui fait également partie du bien commun. Alors ensuite, la destination universelle des biens, on avait parlé la dernière fois là, des fleurs, des produits frais qui risquaient d'être jetés suite au confinement. Mais finalement, même quand on parle des pénuries telles qu'on a pu les voir dans les infos, des rouleaux de papier toilette, etc., on est vraiment sur une question de destination universelle des biens, peut-être mal appropriée. Quand je prends des rouleaux de papier toilette alors que j'en ai pas forcément un besoin impérieux tout de suite pour stocker, finalement je suis un peu dans le cas de celui qui stocke deux jours de manne au désert au lieu de prendre juste ce dont il a besoin pour aujourd'hui. Et je suis dans la situation de celui qui accapare pour moi, pour ma sécurité, pour ma sur-sécurité même, et qui préfère positionner ses biens pour ma sur-sécurité plutôt que pour le quotidien, le nécessaire des autres utilisateurs. Un peu la même question sur les masques qui ont pu être volés à droite à gauche. Et puis à l'inverse, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont retrouvé des milliers, parfois plus, de masques qu'ils avaient accumulés au cas où et qui les restituent. Et là, c'est vraiment l'idée finalement de restituer à une destination universelle ces biens qui sont les masques dont aujourd'hui les ARS ont besoin et pour lesquels elles ont fait des appels pour récupérer les masques disponibles. Un autre point qui est la subsidiarité, Alors on a parlé la dernière fois de la manière dont l'État prenait les décisions, là je vais pas répéter, mais peut-être une autre chose, c'est on voit à l'occasion du coronavirus qu'il y a certains services qui disparaissent pour plein de raisons techniques. Un des services qui a eu à fermer temporairement récemment, c'est le service d'appel pour les violences conjugales. Et là, finalement, ça nous réinterroge aussi sur est-ce que ce service central, pourquoi est-ce qu'il est central ? Alors, c'est très bien qu'il y ait des systèmes qui permettent d'aider ça, mais finalement, est-ce qu'on prend bien conscience qu'avant d'être un besoin de niveau central, c'est un besoin de niveau très humain et très personnel. Est-ce qu'on est dans l'écoute vis-à-vis des personnes qui peuvent vivre des situations de violence conjugale ? Est-ce qu'on considère que c'est notre rôle de s'intéresser à ça quand on voit des signes dans des couples qui nous entourent, etc. Et donc là, on est vraiment dans la question, finalement, cette crise nous réinterroge sur comment je me situe par rapport à cette décision de faire remonter à un niveau un peu global commun, qu'est-ce que moi je peux faire et est-ce que ça a vraiment lieu d'être remonté complètement d'un niveau. Et puis ensuite, le cinquième principe, c'est la solidarité. Alors là, je crois qu'on a tous des exemples en tête, hein, mais je vais juste en citer un qui est les lenders allemands proches des frontières françaises qui accueillent des patients. Qu'on dit qu'ils allaient accueillir des patients français dans leur lit de réanimation pour soulager les hôpitaux en surcharge de notre côté de la frontière. Ben là, on est vraiment dans une question de solidarité. Ils nous donnent une ressource critique qui est des respirateurs, des lits d'hôpitaux, dans un moment où on sait la valeur qu'ils ont. Donc c'est vraiment accepter de mourir un peu même pour nous, en l'occurrence. Et puis peut-être le dernier point, c'est que quand vous savez peut-être que vous avez peut-être été appelé par l'un ou par l'autre à sortir à vos fenêtres à 20h le soir pour applaudir le corps médical et les soignants, finalement, qu'est-ce qu'on applaudit quand on applaudit ? On applaudit des gens qui ont accepté de donner leur temps, de leur énergie, qui acceptent de rentrer dans des zones d'inconfort, on va en reparler, la question du tri, on sait que du tri des patients à l'arrivée à l'hôpital, on sait qu'ils vont être dans des zones d'inconfort dans certaines situations, qui acceptent de se mettre en situation de danger, entre guillemets, ou même pas entre guillemets, qui acceptent de se mettre dans des situations de danger dans leur travail, finalement de risquer de tomber eux-mêmes malades, et ça pour les autres. Et là, c'est vraiment la définition de la solidarité. C'est accepter de se mettre en danger, accepter de donner de soi pour l'autre. Et donc finalement, c'est ça qu'on applaudit. C'est un acte de solidarité. Et qu'est-ce que c'est l'exemple type de la solidarité dans la Bible ? C'est le Christ sur la croix qui se donne pour nous. Et ça, finalement, ce qu'on applaudit quand on va à 20h à nos fenêtres pour applaudir les soignants, on applaudit le Christ sur la croix. Voilà. Donc c'est un bon acte de carême aussi de réfléchir à tout ça, parce que ça nous permet de réfléchir aussi à comment Dieu agit dans nos vies et puis à quoi ressemble la croix. Voilà, ça c'est une digression un peu longue pour rappeler les cinq principes, donc dignité, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité et solidarité. Et donc maintenant, je vais passer à la question du travail. Voilà, alors ce que le magistère, l'Église catholique appelle le travail humain. Et finalement, la question titre de cette conférence, qui est être chrétien au travail, est-ce vraiment raisonnable ? Mais en fait, la réponse, c'est en une phrase. Ce que l'Église nous propose, c'est un travail humain. Donc être chrétien au travail, oui, c'est très raisonnable. Ensuite, il faut savoir ce que ça veut dire. Être chrétien au travail, est-ce que c'est de mettre une croix sur son bureau, commencer chaque réunion par une prière, etc. Ça, c'est bien évidemment pas très heureux comme situation. En tout cas, c'est pas du tout faisable dans tous les cadres. Et c'est pas forcément souhaitable dans tous les cadres. En revanche, euh, euh, et finalement, finalement, c'est ça toute la beauté de la doctrine sociale de l'Église, c'est que tous ces principes, les principes que j'ai cités là tout à l'heure, dignité de la personne humaine, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, solidarité, c'est des principes très humains. Donc c'est des choses avec lesquelles on peut se retrouver sans grande difficulté avec tous nos collègues. La dignité de la personne humaine, personne n'est contre. La solidarité, personne n'est contre non plus. Le bien commun, en général, les gens peuvent se retrouver là-dedans, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion, mais en tout cas, c'est des discussions très saines qu'on peut avoir. Et donc, être chrétien au travail, est-ce vraiment raisonnable ? Eh ben, si on se met dans cette optique de réfléchir à qu'est-ce que c'est de vivre ces principes dans le cadre du travail, on est vraiment dans cette démarche de dire dans mon travail, j'ai envie de vivre ça. Pour moi, c'est relié à ma foi, mais en fait, c'est pleinement humain. C'est pleinement humain, ça m'amène vers Dieu. Ou quand on part avec une démarche de foi, c'est pleinement divin et ça me dit comment agir dans le monde. Alors, si on reprend un peu la Genèse, l'homme a été mis sur terre pour cultiver et garder le don de Dieu. Donc d'abord, il a été mis là. D'abord, tout le monde a été mis là. Homme, femme, qu'on soit employé, salarié, ou chef d'entreprise, ou mère au foyer, ou etc. On est dans toute cette situation-là, dans du travail humain. Alors il est salarié, il n'est pas salarié, et finalement, je prends cet exemple parce qu'il est très parlant et je pense qu'il parle à un certain nombre de personnes. La mère au foyer, elle est vraiment dans un travail, elle construit quelque chose, elle contribue à la dignité de ses enfants, elle les éduque, éventuellement il y a des procédures qualité, il faut être réveillé avant telle heure pour pouvoir être allé à l'école à telle heure, etc. Il y a des fournisseurs, etc. Et donc toute cette construction, dans un foyer, c'est un travail un peu au même titre. Il n'est pas rémunéré certes, mais un peu au même titre qu'une personne qui va travailler dans une entreprise ou dans une administration. Et le travail finalement, alors on a souvent une conception un peu mauvaise qui est de dire que le travail fait suite au péché originel et que c'est une malédiction. Alors c'est pas exact, quand on relit la Bible, on voit bien que le travail il précède la chute. Il devient pénible après le péché. Donc après le péché, Dieu nous dit mais tu gagneras ta croûte à la sueur de ton front, etc. Et puis d'ailleurs t'enfanteras dans la douleur. Mais finalement, ce qui est pénible dans le travail, souvent ça a un rapport avec le péché. Recadrer un collaborateur, c'est pas par exemple quelque chose de très facile ou agréable à faire. De la même manière que dans une famille, punir un enfant, c'est pas la chose la plus facile ou la plus agréable à faire. Mais finalement, ça n'a pas à être source de fatigue et ça n'a pas à être désagréable. Et souvent, ce qui le rend désagréable, c'est un péché sous-jacent. L'idée que je ne respecte pas la personne et que je vais critiquer la personne plutôt que l'acte, plutôt que ce qu'elle a fait, là finalement c'est bien qu'on est dans le péché, en respectant pas la personne on est dans le péché, et là ça devient quelque chose de pénible. Si on se base sur des impressions plutôt que sur des faits, on sait que c'est plutôt reconnu comme une bonne pratique de baser un recadrage sur des faits. Finalement, si on se base sur des impressions, des jugements, etc., plutôt que sur des faits, on est en dehors de la vérité. Et là encore, ça peut être un péché, et c'est ça qui peut rendre l'exercice pénible. Le reporting, on sait que dans les entreprises, ça peut être des choses qui sont parfois un peu pénibles également pour ceux qui doivent les faire. C'est plus pénible quand on commence à essayer de jouer avec les vérités, d'essayer de bien vendre ce qu'on a envie, de peser sur les chiffres, etc. Là encore, quand on est un peu en limite par rapport à la vérité, le reporting peut devenir un exercice un peu pénible. Et donc, finalement, tout ça, ça nous indique que dans le travail, quand il y a des choses qui nous pèsent, qui sont pénibles pour nous, ça peut être un indice pour nous aider à chercher quelles sont les situations où on est dans le péché au travail. Voilà. Et du coup, on peut ressortir les principes de la doctrine sociale de l'Église pour faire des petites analyses. Voilà. J'ai parlé du fait de critiquer un résultat plutôt qu'une personne. Là, on est dans la question de la dignité de la personne humaine. Le bien commun, finalement, il éclaire aussi plein de choses dans le cadre du travail. Toutes nos entreprises, on a un slogan ou une devise d'entreprise, etc., qui nous dit quelle est notre raison d'être et puis ce qu'on essaye de faire. Alors chez Google, ça va être « don't be evil », ne faites pas de mal, voire même « do good », faites le bien. Dans plein d'entreprises, on a ces slogans qui finalement expriment quel est le bien commun auquel on a envie de participer. Est-ce que c'est de permettre des procès plus justes quand on est avocat? Est-ce que c'est d'autres situations dans d'autres entreprises? Le bien commun, on sent aussi qu'il est derrière les questions, ou c'est une mauvaise compréhension, et derrière la question des jeux de pouvoir dans les entreprises. Quand on essaye d'accaparer pour soi le pouvoir sur tel et tel morceau de l'entreprise, ou etc., ou d'une administration, hein, par ailleurs, on est bien dans la question du bien commun, de est-ce qu'on est en train de construire quelque chose pour le groupe ou pour soi et l'image qu'on a de soi-même. La destination universelle des biens, c'est pareil, c'est un sujet qui est très... Qui est très visible dans les entreprises, parce qu'il s'agit de la manière dont l'argent tourne dans une entreprise ou dans une administration. Finalement, quand on a trop ou trop peu d'argent qui coule dans une structure, ça pose des problèmes. S'il y en a trop peu, ça fait qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas bien réaliser leur travail et bien faire ce qu'il faut. Quand il y en a trop, ça amène d'autres types de problèmes. On peut avoir en tête les questions de, quand on parle de destination universelle des biens, les questions de malversation, de alors on est un peu moins concerné dans nos pays, mais de corruption, etc. La question de la subsidiarité, elle est pareil, très lisible, hein, dans les entreprises. Finalement, est-ce que on a à cœur, dans le fonctionnement de l'entreprise, de prendre les décisions le plus proche possible du terrain? Est-ce que concrètement les décisions remontent toujours au chef, voire au chef du chef, voire au chef du chef du chef, ou est-ce qu'il y a vraiment une capacité de prise de décision sur le terrain? Est-ce qu'on a mis en place des choses concrètes dans nos organisations pour que les personnes qui sont sur le terrain, les opérateurs, les employés, aient des moyens pour mener eux-mêmes des actions? Voilà. Ça, il y a des choses qui se font, hein, dans plein d'entreprises, des petits groupes de progrès qui peuvent lancer des actions et puis essayer de les mettre en œuvre. Et puis la question de la solidarité, finalement, les syndicats dans le monde du travail sont là pour œuvrer à la solidarité entre les travailleurs. Donc là aussi, ça permet aussi de se poser la question, est-ce que je suis tout seul au monde du travail, ou est-ce que je suis tout seul avec d'autres? Est-ce que je peux prendre parti pour aider quelqu'un qui est en difficulté à un moment dans le travail, soit vis-à-vis de son chef, soit vis-à-vis d'autres, soit vis-à-vis de sa charge de travail, soit est-ce que finalement je mets en œuvre de la solidarité au sein de mon boulot. Et puis ensuite, il y a tout ce que un principe un concept dont on parle souvent dans la doctrine sociale de l'Église, qui sont les structures de péché. Et là, finalement, c'est souvent également assez lisible dans les structures dans lesquelles on est. Il peut y avoir plein de structures de péché différentes. Alors, structure de péché, c'est une forme d'habitude collective d'accepter un certain type de péché, et puis du coup, ça peut être... les gens s'entraînent un petit peu les uns les autres à accepter un certain type de péché. Il peut y en avoir de types très très différents. Les mensonges en pagaille, c'est une structure de péché. Les malversations dont on a parlé, ça, c'est une structure de péché. La corruption, c'est une structure de péché. Le racisme, c'est une structure de péché. Les plafonds de verre, quand les femmes ne réussissent pas à passer un certain niveau dans une entreprise, c'est également une structure de péché. Les blagues sexistes, dans un autre style, c'est une structure de péché. Et là, finalement, ça vient nous aider. Et là, alors, faut vraiment qu'on se pose la question dans l'entreprise dans laquelle je suis, ou dans l'administration dans laquelle je travaille, ou bien l'association, ou bien même dans notre famille. Quelles sont les structures de péché dans lesquelles on est, entre guillemets, un peu englué? Une structure de péché, ça rend un certain péché plus attrayant. Ça relativise un petit peu les aspects de ce péché-là. Est-ce que c'est vraiment grave de faire ça si tout le monde le fait, si c'est pour lâcher la pression, etc. Ce type de questions qui peuvent arriver. La structure de péché, elle recrute, c'est-à-dire les nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, dans l'association, etc. Très rapidement sont un peu attrapés par cette structure de péché pour être sûr qu'ils vont bien jouer le jeu de cette structure de péché. Elle recrute, elle punit ceux qui réussissent, qui refusent de rentrer dedans, etc. Et là, c'est vraiment important de se poser la question. C'est pas toujours facile d'entrée de jeu quand on arrive dans une structure de comprendre ça. Par contre, au bout de 6 mois, 1 an, avoir l'occasion de se poser un petit peu et de se dire, mais au fait, c'est quoi les structures de péché qui sont autour de moi? Est-ce qu'il y en a? Et puis, une structure de péché, comment on la combat? On la combat par la solidarité. Et donc, quels sont les actes de solidarité? Ça veut dire me mettre moi un petit peu en danger ou accepter de me donner un petit peu pour l'autre, pour quelqu'un d'autre. Quels sont les petits actes de solidarité? On ne peut pas toujours tout faire. Par contre, on peut toujours faire quelque chose. Et donc, quels sont les actes de solidarité que je suis capable de faire en rapport avec cette structure de péché? Arrêter de faire les blagues sexistes avec les autres, aller regarder quelqu'un. Il ne faut pas toujours tout faire, par contre, il faut se poser la question. Les structures de péché que je vois autour de moi et dans lesquelles je suis sans doute moi aussi à terme un peu englué, bah, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de les dissoudre un peu? Voilà. Donc ça, finalement, c'est pour dire pourquoi j'ai fait un peu cette liste à la Prévert là. C'est que être chrétien... au travail, ça a un vrai sens. On peut pas complètement déconnecter notre vie de chrétien, notre vie de quand on va à la messe, etc., avec la vie de travail. Par contre, il ne s'agit pas d'aller annoncer Jésus-Christ à tout le monde. Il s'agit finalement d'aller trouver ce qui est vraiment humain et pour nous c'est vraiment divin, donc vraiment humain, et de voir finalement comment est-ce qu'on peut œuvrer comme ça au travail. Dans la Bible, autant la vision de l'argent est ambiguë, on en a parlé la dernière fois, la vision de l'argent c'est ambiguë, il y a toujours la tension entre l'idolâtrie de l'argent et puis le fait que quand on est bon gestionnaire, il est normal qu'on nous confie beaucoup, comme la parabole des talents. Autant la vision du travail est plutôt positive. Joseph, il travaille, Jésus a travaillé certainement. Quand on parle du serviteur paresseux des talents, le fait qu'il ne travaille pas est plutôt mal vu. Les disciples ont dit qu'ils sont ouvriers de la moisson. On parle de l'ouvrier qui mérite son salaire, etc. Et là, on sait d'ailleurs, nous, dans nos vies, que les personnes qui sont au chômage ont souvent des difficultés à accepter cette image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes ou qu'ils peuvent donner aux autres. Voilà. Le travail, il est source de richesse. Il est un bon instrument contre la pauvreté. Et puis, le travail, il a aussi pour objet de libérer les autres. Jésus guérit pendant le Shabbat. Hein, on en parlait d'ailleurs à l'Évangile ce matin. Et puis le travail, bah, c'est la participation de chacun au bien commun. On est vraiment en train de construire l'univers, on est en train de découvrir comment l'univers fonctionne et puis comment continuer à le fabriquer, comment continuer la création avec le Christ, avec Dieu. Et donc tout ça, ça donne une vision par la Bible du travail qui est plutôt quelque chose de positif. Et en ce sens, bah, le travail est vraiment une occasion de prière. Alors l'Église nous dit, le travail est une, devient prière dévote, ascèse vigilante et espérance anxieuse. Alors la prière dévote, c'est l'action qu'on peut avoir de confier son travail le matin à la prière. La cesse vigilante, finalement, est-ce que je fais l'effort de pardonner au quotidien les petits actes difficiles que je peux rencontrer au travail? Et puis l'espérance anxieuse, ben voilà, est-ce que dans un environnement où il y a éventuellement du mensonge, etc., est-ce que faire le pari de décloisonner un peu l'information, là on est dans l'espérance anxieuse, est-ce que décloisonner ces informations va faire tourner mieux la boutique et va permettre de mieux réussir finalement ce que j'ai à faire au travail. Voilà. Est-ce que donner du feedback positif au bouc émissaire du moment, est-ce que ça va redonner de l'énergie et lui permettre de redémarrer, etc. On est dans ce type de questions. Et donc avec toute cette vision positive, bah, finalement, le travail n'est pas seulement un devoir, il est également un droit. Et ça, l'Église nous le dit de manière très très claire. Alors, c'est écrit dans la Constitution française, hein, par ailleurs, que chaque citoyen a le droit d'avoir un travail. Et l'Église nous le dit. Alors, elle dit que c'est important pour pouvoir fonder une famille et la faire vivre, pour permettre de rendre possible l'accès à la propriété, pour le fait de pouvoir chacun contribuer au bien commun. Elle lit d'ailleurs assez fortement le travail et la famille. Hein, elle dit bien. Quand le travail implique des trajets longs, quand il y a des crises au travail, quand il y a du double travail, etc., ça pèse toujours un peu sur la vie familiale. Et puis à l'inverse, bah, les crises en famille, ça peut peser sur le travail. Et puis la famille, bah, elle peut soutenir le travailleur dans ses difficultés. Quand il y a des choses difficiles au travail, s'il y a une famille qui est solide derrière, ça aide. Moi qui suis parti en expatriation, on dit toujours... une expatriation réussie, c'est quand la famille aussi se sent bien. Et quand la famille se sent pas bien, bah l'expatriation finit par planter d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc un droit au travail. Et du coup, bah quand on entend droit au travail, on pense forcément tout de suite au chômage. Et l'Église présente le chômage comme une calamité sociale en disant que le plein emploi est un objectif. Voilà, sinon, la paix sociale n'est pas possible, il y a des injustices qui se créent, etc. Et là, l'Église nous amène à avoir une attention particulière pour, alors qu'on appelle de manière générale l'option préférentielle pour les pauvres, l'Église nous amène à avoir une attention particulière pour les personnes qui peuvent être, par nature, un peu, avoir un accès un peu plus difficile au monde du travail. Elle parle des femmes, elle parle des handicapés, des anciens condamnés qui sortent de prison, des personnes qui sont immigrées, des analphabètes, des jeunes, etc. Et donc on a besoin de construire des structures pour aider ça. Alors il faut construire un peu de formation, il faut construire de la réintégration en sortie de prison, etc. Il y a d'ailleurs des services dans les prisons qui sont dédiés à ça, hein, les SPIP. Et donc là-dessus, il faut qu'on construise des choses qui permettent d'exercer cette option préférentielle pour les pauvres. Quand on parle de droit au travail, on a envie de dire comment ça marche, sur qui pèse ce droit, qui doit le rendre possible. Et on pourrait avoir envie que ce soit l'État. Sauf que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ça, c'est pas son rôle. Et ce serait assez mal ajusté par rapport au principe de subsidiarité. L'État n'a pas à embaucher tout le monde. Par contre, il doit créer les conditions pour que les entreprises jouent ce rôle. Donc en faisant un cadre qui permet aux entreprises de croître, de bien fonctionner, en les soutenant en période de crise. Hein, et là, avec le coronavirus, on a un exemple très clair. Hein, tout le monde est en attente de ce que fait l'État. Et l'État, en l'occurrence, débloque des sommes très très importantes pour pouvoir permettre aux entreprises, autant que c'est possible, de survivre à ça. Le chômage partiel, bah, finalement c'est bien l'idée que c'est l'État qui va payer les salaires, en tout cas une grosse partie du salaire, pendant les moments où les personnes ne peuvent pas travailler. Et puis l'État, pareil, par subsidiarité, est invité à agir de manière un peu plus pressante pour les populations qui, malgré tous ces efforts-là avec les entreprises, n'ont toujours pas accès au monde du travail. Alors en France, on a un concept qui existe depuis quelques années, je dirais 2 ans, qui s'appelle les territoires zéro chômeur de longue durée. Et l'idée, c'est d'avoir une entreprise sur un territoire qui récupère les droits au chômage des chômeurs de longue durée et en contrepartie, elle les embauche. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très positif parce que c'est l'idée de mettre en œuvre ce droit au travail et de permettre à ces personnes de réintégrer pour de vrai le monde du travail. Donc on est vraiment dans des initiatives qui sont très très positives. C'est vraiment de la subsidiarité parce que l'État ne s'occupe que des gens qui ne réussissent pas finalement les chômeurs longue durée, donc c'est bien des gens qui sont restés un an et quelques ou plus au chômage. Pour ces gens-là, l'État met un peu plus sur la table, il donne finalement les droits au chômage à une entreprise qui va les une entreprise à but d'emploi, on dit, qui va les employer. Voilà. Alors voilà, une vision très positive du travail qui mène à une logique de droit du travail. Et à l'inverse, il ne faut pas céder à la tentation d'idolâtrer le travail. Donc on en a parlé pour l'argent, mais on peut idolâtrer le travail. On a tous en tête des cadres dynamiques qui bossent des heures pas possibles et qui reviennent tous les week-ends parce que sinon le travail ne peut pas avancer, l'entreprise ne fonctionne pas, ils ne partent plus en vacances, etc. Là, on peut tomber dans des choses du type idolâtrie du travail. Et là-dessus, bah, finalement, le sommet de l'enseignement sur le travail de l'Église, par l'Église, c'est le sens du Shabbat. Donc l'idée que il y a un temps qui est dédié au travail et il y a un temps qui n'est pas dédié au travail. Il y a un temps qui est dédié au travail et il y a un temps qui est dédié à se rapprocher de Dieu, à évoquer les œuvres de Dieu, à se reconnaître comme son œuvre, à rendre grâce pour son existence, la joie propre du jour du Seigneur, un temps qui est dédié aux œuvres de miséricorde, à la détente de l'esprit, du corps, etc. À la réflexion, au silence, à l'étude, et puis à anticiper la joie du sabbat éternel. Et finalement, ben là, c'est vraiment le sommet de l'enseignement de l'Église sur le travail, parce que ça lie au travail l'idée d'une liberté plus pleine. Ça lie au travail l'idée que le travail est là pour autre chose. Le travail n'est pas là pour lui-même, il est là pour autre chose, et il est là pour qu'on puisse avoir quelque chose qui aille au-delà et qui est de l'ordre de la vie avec Dieu. Voilà. Et ça, le Shabbat, alors pour nous c'est le repos dominical, hein, de manière très claire, c'est un rempart contre l'asservissement au travail, qu'il soit volontaire d'ailleurs, ou involontaire. Alors ça commence dans la Bible, hein, assez tôt, les Hébreux en Égypte qui disent à Pharaon on veut aller louer Dieu sur la montagne, et Pharaon qui dit non, on est vraiment dans la question de l'asservissement, là en l'occurrence involontaire. Et c'est une question d'ailleurs, la question de l'asservissement au travail, bah, que finalement là aussi le coronavirus peut nous aider à relire cette question différemment, parce que quand on travaille à la maison, où est-ce qu'on pose la limite? Quand on travaille à un autre endroit et qu'on revient à la maison, on voit à peu près où est la limite, c'est clair. Quand on travaille à la maison, est-ce qu'il y a une limite? Il y a un endroit où il y a un moment où j'éteins mon ordinateur, il y a une pièce dans laquelle je travaille et les autres où je ne travaille pas, etc. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à mettre un rempart contre l'asservissement qui soit volontaire? Et puis est-ce que je fais attention moi-même à pas être une source de travail pour les autres le dimanche? Est-ce que je vais faire mes courses le dimanche? Est-ce que je fais attention à pas moi-même créer du travail pour les autres le dimanche? Je me rappelle que donc on était parti en Égypte avec ma femme pour 3 ans. On s'était posé beaucoup de questions là-bas parce que finalement on travaillait tous le dimanche, parce que le dimanche est un jour travaillé. Pour les musulmans, c'était le vendredi qui était le jour de repos. Finalement, ça aide à se reposer la question en perdant le repère. Ça aide à se reposer la question et de dire on souhaite avoir un moment dans la semaine. Alors pour nous, on avait décidé que c'était le samedi, mais on souhaite avoir un moment dans la semaine où on est écologique que celle du monde qui avance, celle de l'économie qui avance. Alors un point important que je veux aborder maintenant, c'est la question du capital, du lien entre capital et travail. C'est vrai que, alors c'est comme ça qu'est née la doctrine sociale de l'Église, hein, en, à la fin du 19e siècle, le pape Léon XIII lance son encyclique De Rerum Novarum et il parlait justement du lien entre capital et travail. Et finalement, il est venu introduire tout un tas de concepts qui nous aident à lire un petit peu ce sujet. Alors, je commence par un point, c'est que l'Église voit dans le travail deux dimensions distinctes, qui sont ce qu'elle appelle la dimension subjective et la dimension objective du travail. La dimension subjective, c'est que un travail, un job, un boulot, quelque chose qu'on a à faire, une tâche, une mission, etc., elle peut se mesurer sur deux axes qui sont le premier, sa dimension subjective, c'est est-ce qu'il fait grandir la personne qui le fait, est-ce qu'elle fait grandir le sujet, est-ce qu'elle fait grandir le travailleur. Et l'objectif, c'est qu'est-ce qu'elle crée. Ça, c'est la dimension objective du travail. Et l'Église nous dit, attention, c'est très important, le subjectif passe avant l'objectif. Donc, on met bien la priorisation dans ce sens-là. C'est un travail doit d'abord faire grandir la personne qui le fait. C'est bien la logique, l'homme a été placé sur le jardin pour l'embellir et le garder. Mais finalement, quand on fait ça, l'objectif premier, c'est que l'homme continue le travail de Dieu, que l'homme continue la création. Et donc, c'est ça qui est premier avant le fait que le jardin puisse être embelli. Et donc, la priorité du subjectif sur l'objectif dans la doctrine sociale de l'Église. Si on inverse les priorités, on peut rapidement avoir un travail qui devient ennemi de la dignité de la personne humaine par des rythmes effrénés, par tout un tas de choses dans lesquelles on peut tomber. Je fais juste un tout petit encart là, mais sur la question du tri des patients dont on parlait tout à l'heure. Si jamais on en vient à des extrémités comme ça en France ou ailleurs d'ailleurs, cette distinction entre le subjectif et l'objectif est importante. Le subjectif, finalement, dans ce cas-là, pour le soignant ou le médecin qui a à prendre des décisions, c'est de se dire, est-ce que dans cette situation où je suis amené à faire un tri, est-ce que moi-même je me mets dans une optique où je considère que je suis une personne humaine qui doit chercher sa dignité, qui doit chercher comment construire le bien commun, comment faire le mieux dans cette situation-là, avant de se poser la question des patients. C'est d'abord, finalement, pour bien caler les choses, c'est d'abord comment est-ce que les soignants et puis les médecins qui vont avoir à prendre des décisions se positionnent avant le résultat de leur décision. Alors forcément, tout est bien lié. Par contre, c'est très important de faire ça parce que si on prend les choses en sens inverse, on risque d'avoir une déconnexion de gens qui disent, explicitement ou implicitement, mais je démissionne, je ne veux pas prendre ce type de décision. Or, c'est important, on a besoin que des gens formés, que des gens qui ont le savoir-faire pour prendre ce type de décision puissent le prendre. Et il faut qu'ils soient pleinement prêts à prendre cette décision et qu'ils comprennent que finalement, ils sont vraiment dans leur. Ils sont vraiment parfaitement. Bien positionnés quand ils ont à prendre ce type de décision. Un troisième aspect dont on parle parfois qui est l'aspect social, donc subjectif, objectif et puis ensuite social. Le travail, il nous permet d'être en lien avec plein d'autres gens, des clients, des fournisseurs, des collègues. Et ça, c'est également quelque chose qui permet de caractériser un travail. Dans notre travail, chacun, qu'il soit domestique ou public, finalement nous poser la question, est-ce que ça me fait grandir, qu'est-ce que je construis, et puis quelles sont les personnes avec qui je suis en lien. le subjectif qui passe devant l'objectif, c'est aussi c'est en fait assez logique, hein. C'est même pour une entreprise, on se pose d'abord la question de alors excuse-moi, je me trompe. La question capital contre versus travail. Quand on dit le subjectif avant l'objectif, ça implique que capital et travail, les deux dimensions, bah finalement le travail qui est le seul aspect qui quelqu'un a un aspect subjectif. On peut faire du travail, par contre le capital est un objet qui n'a pas d'aspect subjectif. Le fait que dans le travail, dans la notion de travail, il puisse y avoir ce sujet de celui qui fait que le travail et le capital qui sont en lien l'un l'autre et puis qui se fécondent l'un l'autre, le travail est quand même prioritaire par rapport au capital. Alors c'est très logique pour les entrepreneurs de se dire en fait on choisit d'abord ce qu'on va fabriquer avant de se poser ou ce qu'on va offrir comme service ou ce qu'on va faire ou notre raison d'être, etc. avant de fabriquer une société avec un capital, avec etc. C'est en fait très logique de réfléchir d'abord client, d'abord flux, etc. avant d'aller chercher la question de l'argent, de combien on va gagner, de qu'est-ce qu'on va faire payer, etc. Donc il y a quelque chose de très logique, même dans une logique business, de dire le travail passe avant le capital. À l'inverse, hein, il y a quelques cas où on peut être dans une logique un peu différente. Les leverage buyout, alors ça s'appelle les LBO, qui est un comportement de financiers qui ont une somme d'argent, qui rachètent une entreprise avec l'idée de la lessiver le plus vite possible. Souvent ils arrêtent tous les investissements, ils essayent de récupérer tout l'argent qu'ils peuvent pour ensuite la revendre 5 ans après en ayant gagné quelques trucs fiscaux au passage. Et là c'est vraiment une logique qui est fiscale avant d'être fiscale et financière avant d'être une logique de à quoi sert l'entreprise. Et en général c'est une catastrophe pour les boîtes qui sont rachetées dans ce type de cas, parce que justement l'investissement s'arrête, il n'y a plus de recrutement, et donc là on est vraiment dans l'idée du capital qui passe avant le travail. Voilà. Alors faut pas trop séparer, hein, capital et travail, on a envie de les opposer, et puis c'était un peu ça le problème à la fin du 19e siècle. Mais ils fonctionnent bien l'un avec l'autre. D'ailleurs dans le foyer c'est pareil, hein, il faut de l'argent pour faire tourner le foyer, et puis il faut le travail des parents pour faire avancer la vie de famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être gardé, où on doit garder ce lien de manière très importante. Et dans les choses nouvelles dont l'Église nous parle, bah, finalement. Parfois, on peut, dans les multinationales où les centres de décision sont parfois loin des centres de production qui sont dans des pays étrangers, il faut toujours avoir à cœur de garder un vrai lien entre la décision, qui est quelque chose qui relève plus du capital, et les personnes qui travaillent, qui sont parfois sur le terrain. Et donc, il faut réussir à leur faire comprendre la stratégie, il faut à l'inverse être à l'écoute des conditions de fonctionnement dans le pays, des enjeux du pays et d'accueil, etc. Donc c'est vraiment très important d'être toujours en lien et de toujours garder ce lien entre capital et travail. On n'est pas dans une opposition, on est vraiment dans une logique de fécondation de l'un et de l'autre, l'un par l'autre. Voilà. Alors, les fois où ça marche pas, il y a les syndicats qui sont là pour être le premier rempart, en mettant en œuvre des actions de solidarité, etc. Ils ont un rôle dans l'éducation de la conscience sociale des travailleurs. Et puis parfois la grève. Alors la grève, c'est une forme de violence. Et donc comme toute forme de violence, il y a des conditions d'application qui sont justes et des conditions d'application qui ne sont pas justes. Pour qu'une forme de violence soit juste, elle doit être en réaction à une agression grave et durable. Euh, faut avoir essayé tous les moyens non violents. Il ne faut pas risquer des désordres plus graves encore. Et puis, il faut avoir une bonne chance de réussite. Si on est dans ces conditions-là, bah finalement, une grève peut se justifier. Quand elle cherche, bien sûr, le bien commun. Voilà. On sait qu'il y a des fois où c'est le cas, il y a des fois où c'est pas le cas. Hein. Quand on est face à une grève, excusez-moi, c'est pas le coronavirus, je vous rassure. Quand on est face à une grève, bah voilà, se poser la question comment je suis par rapport à ces critères. Est-ce que je suis en réaction face à une agression grave et durable? Est-ce qu'on a essayé les moyens non violents de lutte? Est-ce que on risque pas des désordres encore plus graves? Et est-ce qu'on a une bonne chance de réussite? Voilà. Alors les syndicats, ils sont aussi là pour sauvegarder les droits des travailleurs. Alors il faut toujours faire attention au corporatisme. Ils sont là pour les droits des travailleurs. Ils sont pas là pour les droits de leurs cotisants. Voilà. Alors leur contribution au bien commun, c'est l'application de la solidarité dans l'entreprise. C'est l'application de justes relations entre les employés et les employeurs. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent juste aux gens qui cotisent, sinon on loupe tout un point important. On loupe les sans-emploi, on loupe les contrats atypiques, les CDD, etc. On peut louper les immigrés qui ont du mal à rentrer dans le monde du travail, les saisonniers, on peut louper tout un tas de choses. Et donc le rôle des syndicats va au-delà de la défense de leurs propres salariés. On sait que ce n'est pas toujours le cas, hein, mais on a sûrement tous en tête des syndicats qui à un moment ont pu prendre des décisions parce que telle personne était syndiquée, telle autre l'était pas. Mais là encore, l'Église n'est pas là pour nous dire voilà ce que font les gens, l'Église est là pour nous montrer la vraie vocation de chacun. La vraie vocation d'un syndicat, c'est de défendre finalement tout le monde et de créer des relations justes entre employeurs et employés. Alors les droits des travailleurs, quels sont-ils? Ce que défendent justement les syndicats, une juste rémunération, du repos, des lieux et des méthodes de travail qui ne portent pas atteinte à la santé physique ou à l'intégrité morale, des allocations chômage suffisantes, ils sont là pour défendre les retraites, l'assurance vieillesse, les maladies, les accidents du travail, etc. Les mesures sociales liées à la maternité, etc. Et puis finalement, pour terminer là sur la question capital-travail, il y a un principe qui est important dans la doctrine sociale de l'Église, qui est parfois présenté comme l'un des principes de la doctrine sociale de l'Église d'ailleurs, qui est la participation. Et en fait, l'Église dit que le travail est un type de participation, c'est-à-dire que quand on participe à un chantier, on en est autant le propriétaire que celui qui est financièrement propriétaire du chantier ou de l'effort de travail qui est fait. Dans notre économie qui est de plus en plus dématérialisée avec beaucoup de compétences, entre guillemets, savoir ou savoir-faire, avec beaucoup de finalement participation intellectuelle à des projets, on voit qu'on peut contribuer autant par son savoir que par le capital. Et donc on est fondé à se considérer comme étant comme ayant une certaine forme de propriété sur le travail auquel on participe. Voilà. Et ça rejoint de très proche la destination universelle des biens. La destination universelle des biens, en fait, être propriétaire, ça veut juste dire être gestionnaire. Donc finalement, quand on travaille à un chantier, on en est gestionnaire ou on est une partie. Et donc, finalement, on participe au même titre qu'on pourrait avoir une participation financière dans un travail. Alors c'est à ce titre-là que l'Église regrette hein, quand les moyens de production sont possédés contre le travail, quand on arrête une usine pour faire augmenter des prix ou des choses comme ça. L'Église dit que ça c'est une possession qui devient illégitime. Voilà. Organiser une pénurie en spéculant sur les moyens de production ou etc. Ça c'est ou même la limitation. C'est des types de choses qui sont finalement qui contreviennent au principe de destination universelle des biens. Et puis la participation, bah, c'est aussi de manière très concrète participer aux fruits du travail. Et là, on sait que beaucoup d'entreprises ont des systèmes de participation où les employés peuvent bénéficier d'une partie des revenus de l'entreprise. Et ça, c'est des choses qui sont très positives parce que ça vient vraiment mettre en œuvre cette copropriété avec les travailleurs. Alors, les challenges du monde du travail, pour terminer, je vois que je suis un tout petit peu en retard, mais voilà, c'est pas grave. Les challenges du monde du travail, alors il y a beaucoup de challenges qui tombent sur le monde du travail. On a parfois l'impression que ça tombe du ciel, que c'est un progrès inarrêtable, qu'il y a un rouleau compresseur qui nous tombe dessus. Alors, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de etc. Comme on a pu parler de la mécanisation il y a quelques dizaines d'années. Dans le cadre familial, les téléphones portables, l'arrivée des téléphones portables est peut-être quelque chose qui est presque autant un rouleau compresseur pour la vie familiale que l'intelligence artificielle peut l'être pour l'économie aujourd'hui. Alors il faut bien avoir en tête que tout ça, c'est pas subi. C'est toujours l'homme qui est à la base de ces modifications, c'est toujours l'homme qui est sujet. De ces changements, qui décide ces changements. Il y a toujours un scientifique quelque part qui analyse ces modifications, qui change. Il y a des managers qui prennent des décisions, il y a des personnes qui acceptent de travailler sur tel ou tel logiciel qui permet de faire tourner un drone qui peut tuer de manière autonome, etc. Et donc ça, c'est vraiment très important. De se dire que les modifications du monde du travail, avec lesquelles on n'est pas forcément toujours en phase, il y a toujours des hommes derrière qui prennent des décisions ou qui laissent faire ou qui réglementent. Il y a des législateurs qui sont là aussi pour mettre des barrières quand il faut. Et donc rien n'est dû au destin. Donc il y a toujours des décisions. Et c'est en ça que là encore, faut qu'on se pose la question quelle est l'éthique du travail dans laquelle on veut travailler. Alors nous chrétiens, on a la chance d'avoir cette doctrine sociale de l'Église qui nous y aide. La question de la migration, ça pourrait être vu comme un rouleau compresseur aussi auquel on maîtrise rien. Qu'est-ce qu'on maîtrise, à quel niveau? Est-ce que quand les gens arrivent, on les met à tel ou tel type de poste? Est-ce qu'ils ont les mêmes facilités que les autres? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits dans leur contrat, etc. C'est des choses que finalement, chacun à notre niveau, on est amené à se poser comme question. Alors, dans les challenges du monde du travail, l'Église cite un en particulier, hein, qui dans nos pays n'est pas très visible, mais qui l'est dans d'autres, qui est la question du travail des enfants. C'est une violence particulièrement difficile à faire face, à laquelle il est particulièrement difficile de faire face. Et l'Église considère que bah, voilà, avant d'avoir une certaine force physique, intellectuelle et morale, bah, l'enfant risque de se flétrir si jamais il devait travailler et du coup pas pouvoir avoir d'éducation. Et puis ensuite, l'Église nous parle de ce qu'elle appelle les res novae, donc les nouvelles choses, les enjeux actuels du monde du travail. Et finalement, bah, là-dedans, on peut avoir plein de choses différentes. La mondialisation, alors on a parlé tout à l'heure de la séparation capital-travail. Et finalement, que répond l'Église? On en parlera beaucoup la prochaine fois, mais que répond l'Église? Elle dit... Une mondialisation, ça implique aussi une mondialisation de la régulation, des droits minimums essentiels. Peut-être qu'il faut aller vers une mondialisation des droits minimums essentiels pour mettre un petit peu d'équité. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose nouvelle? Ben, le contenu du travail change. Il est beaucoup plus fragmenté dans le temps et dans l'espace qu'il a pu l'être avant. Des contrats à temps très partiel, des contrats d'intérimaire, des contrats atypiques, l'ubérisation d'un certain nombre de situations. Finalement, ça vient vraiment changer le rapport qu'on peut avoir au travail. Et là encore, l'Église nous dit, mais attention, l'ubérisation ou ces contrats de travail atypiques, etc., c'est toujours le fruit de décisions individuelles de personnes et donc qui ont des aspects moraux. Et donc il faut que chacun, c'est le rôle du chef d'entreprise, mais c'est le rôle des syndicats, des employeurs, des législateurs, il faut que chacun puisse comprendre quels sont les aspects moraux des choses dont il a à traiter. Voilà. Et puis une autre chose nouvelle, c'est les morceaux de travail qui sortent des grandes entreprises pour être réalisés dans des tissus PME. C'est parfois très bien parce que ça permet un foisonnement d'initiatives et puis ça permet de mettre un peu de subsidiarité avec des tissus PME plus dynamiques, plus capables de changer, etc. C'est parfois très très bien. Parfois ça cache des traitements injustes et du travail précaire. On sait par exemple que dans certains domaines, les relations avec les sous-traitants sont très très tendues. Le domaine de l'automobile est connu pour ça, mais d'autres domaines également, où les traitements sont avec les sous-traitants sont vraiment très tendus et toujours à l'avantage du donneur d'ordre. Dans un domaine très différent, l'innovation en médecine est beaucoup drivée par des toutes petites boîtes qui se forment, qui testent une molécule et puis l'immense majorité de ces boîtes-là meurent. Et puis celles qui ont réussi à trouver une molécule qui semble marcher pour quelque chose, d'un coup se faire acheter et puis gagner énormément d'argent. Finalement, là aussi, c'est quel est le lien entre le donneur d'ordre et puis tout le petit réseau de toutes petites entreprises. Est-ce que les choses sont bien calibrées? Est-ce que chacun accepte une part du risque, etc. C'est des questions qu'on est amené à se poser. Et puis demain, on a parlé de l'intelligence artificielle. On sait que une chose à laquelle il va falloir qu'on fasse collectivement très attention, c'est quels sont les principes éthiques qu'on accepte dans nos intelligences artificielles ou pour cadrer l'intelligence artificielle. Et là encore, il y a besoin d'hommes et de femmes, il y a besoin de législateurs, il y a besoin d'ingénieurs qui réfléchissent au sens profond de ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils sont en train de mettre, qui ont un regard critique sur ce qui est en train de se dérouler dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et donc là, on a besoin finalement d'avoir des chrétiens ou des personnes de bonne volonté qui cherchent comment... mettre le monde du travail au service de l'homme, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit pour travailler dans un monde où on peut faire du travail humain, qui est finalement la proposition de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Alors j'en ai fini pour le travail. La semaine prochaine, dimanche prochain, on aura notre dernière conférence de carême pendant laquelle on parlera, alors j'ai oublié le titre exact, mais où on parlera des relations internationales. On parlera en particulier des sujets de migration et puis d'environnement. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À la semaine prochaine. Je ne sais pas quoi.